Viens traiter en moi le péché. Viens me libérer des ténèbres.
La Fondation Adonai Iri House vous invite à suivre l'émission Citoyens du ciel et de la terre du pasteur Ghislain Afolabi Agbede.
Et le monde veut me crucifier.
Pour soutenir les émissions radiophoniques de la Fondation Adonai Iri House, Bank of Africa Benin, nom du compte, Association Adonai Iri House, Code Banque BJ 061, Code Guichet 01001, numéro du compte 00119 28 95 00 05, Clérib 07, Code Swift Afri BJ BJ XXX.
Mon âme soupire après toi. Viens me délivrer des angoisses. Viens réaliser.
Au nom de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit, notre précédente émission s'était focalisée sur l'ethnocentrisme dans la vie sociopolitique. Jésus-Christ demande aux politiciens qui font la politique politicienne d'arrêter la manipulation des peuples par l'exploitation du facteur ethnique, car toutes les ethniques à la fin des temps seront devant le trône de Dieu. L'ethnocentrisme relance la question « Qui est mon prochain ?» Jésus-Christ nous demande de nous débarrasser de la mentalité qui stipule. C'est mon frère, c'est mon os, c'est ma chair. Nous sommes du même village, nous parlons la même langue. Pour voir ainsi les talents et compétences qui se trouvent en l'autre, le samaritain ethnique que nous n'aimons pas. Venons tous à Jésus-Christ aujourd'hui pour agir comme lui. Bienvenue à notre émission Citoyens du ciel et de la terre de ce jour. Une émission qui va mettre en lumière des problèmes ethniques dans le Nouveau Testament, dans le cadre du vécu en contexte, dans la Nouvelle Alliance et dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Avant que Dieu ne prenne chair en Marie pour vivre notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, les Grecs et les Romains exploitaient les Juifs, et ces derniers n'aimaient pas les Samaritains et se faisaient sur le registre de l'ethnocentrisme. La généalogie de Jésus-Christ retracée par Matthieu dans son premier chapitre met à lumière des mariages ethniques, et cela montre l'universalité des origines humaines de la deuxième personne de la Trinité. En effet, telle généalogie révèle la présence des personnes d'autres ethnies dans la lignée du Fils de Dieu. L'évangéliste mentionne deux femmes cananéennes, Tamar et Rahab, une femme moabite en la personne de Ruth et une femme hittite, Bathsheba, épouse de Uri. Rebac va nous faire comprendre que pas seulement le fruit ecclésial, mais les racines historiques d'Israël vont au-delà des liens ethniques. Jésus était de son côté humain le produit d'un arbre familial international. Le Christ est donc le résultat d'un mélange ethnique. Il est le produit d'un métissage ethnique. En s'opposant à pratique dans le temple durant son ministère, Jésus-Christ s'opposa à la ségrégation ethnique qui se vivait dans la maison de Dieu où des interdictions sont faites aux non-juifs. Jésus-Christ était focalisé sur la destruction des barrières socio-ethniques et culturelles. Dans sa lettre aux Éphésiens, au 2e chapitre, dans les versets 14 au 16e verset, l'apôtre Paul renseigne que le Christ qui à la croix détruit le voile du temple a aussi détruit le mur de séparation, offrant ainsi l'identité chrétienne qui sera confirmée à la conférence théologico-culturelle de Jérusalem, rapportée par le médecin Luc en Actes chapitre 15. Cette conférence qui va débouter les judéo-chrétiens qui voulaient envelopper et embrigader l'évangile dans la culture juive. À l'église de Galates, l'apôtre Paul va déclarer dans son 3e chapitre qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. C'était les versets 28 à 29. Paul accentue la même pensée en Colossiens chapitre 3 verset 11. Il n'y a donc pas de distinction d'ethnie, de classe, de sexe à faire en Christ. Nous sommes un en Christ dans notre diversité. Ce message doit retentir davantage aujourd'hui où le repli identitaire, l'orgueil de l'ethnocentrisme semble avoir encore le vent en poupe avec tous les préjugés qu'il nourrit et qu'il le nourrit en Afrique et qui devrait normalement disparaître au pied de la croix du Christ. L'Église se doit d'être témoin de cette diversité ethnique jusqu'aux extrémités de la terre et rappeler à l'ordre tous ceux qui veulent se faire sur le registre de l'ethnocentrisme. Je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi le jour de la crucifixion, en dépit de cette grande foule qui accompagnait Jésus-Christ, il fallait forcément cet homme de Cyrène en Afrique pour porter la croix. N'est-ce pas là une manifestation d'ethnocentrisme que de contraindre Simon l'Africain de Cyrène à porter la croix? Est-ce parce qu'il revenait des champs et qu'il marchait dans le sens contraire de la foule qu'il a été vite remarqué? Est-ce à cause de la couleur de sa peau? Certains chercheurs osent affirmer que Simon est un juif vivant à Cyrène et non un brun d'Afrique. N'est-ce pas là aussi l'autre face de l'ethnocentrisme, le fait de ne pas vouloir accepter que ce soit un noir, un Africain qui a porté la croix du Christ? Cyrène fut une grande colonie grecque qui avait une population juive importante. Cyrène se trouva en Afrique et toutes les personnes qui y habitaient ne furent pas forcément des Africains. C'était une ville mixte, ce qui implique qu'il y avait des Africains et que la probabilité soit grande que Simon soit là, soit Africain. Après sa résurrection, Jésus-Christ a laissé le mandat de faire de toutes les ethnies des disciples à travers l'ordre de la Grande Commission. Matthieu 29, verset 19. La Grande Commission qui ne doit en aucun cas devenir la Grande Omission. Dans le rapport des événements de la Pentecôte, nous pouvons constater que plus de 15 ethnies représentaient toutes les nations du monde. Le médecin Luc nous dit au deuxième chapitre du livre des Actes, dans les versets 8 à 11, ce qui suit. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? À chacun dans sa langue maternelle, Pâques, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Toutes les ethnies étaient visées sans distinction, sans considération, le jour de l'effusion de la puissance de la troisième personne de la Trinité. L'Église naissante était une Église multi-ethnique. L'une des définitions qu'il faudra retenir de l'Église est qu'il s'agit d'un corps composé de gens de toutes les nations qui sont appelés à vivre ensemble l'identité en Christ tout en brisant les barrières ethniques, raciales et tribales. La rencontre de deux, de plusieurs ethnies doit donc produire l'acceptation et non le rejet, et non le mépris de l'autre. Au commencement de l'Église, on pourrait observer un conflit ethnique en Actes chapitre 6, et cela conduit à la fonction du diaconat qui changea ainsi la structure de l'Église naissante pour résoudre la question. En ce temps-là, nous dit Luc, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux, parce que leurs vœux étaient négligés dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze convoquaient la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit rempli d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargeons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposaient les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Telle est là la lecture de la parole du Seigneur, Actes chapitre 6, verset 1 à 7. La négligence des veuves grecques a conduit au conflit ethnique que les disciples ont su rapidement régler en instituant le diaconat pour faire disparaître ce venin du serpent ancien. Cette discrimination, ce préjugé et traiter tout le monde comme des personnes créées à l'image de Dieu. Cela a permis de rectifier les tirs pour que les chalons puissent s'installer au sein de la communauté primitive. C'est en ce sens qu'en 1974, lors du premier congrès du mouvement de Lausanne en Suisse, Michel Green va s'apesantir sur l'Église primitive pour affirmer que l'Église primitive avait un sens remarquable de la communauté. Maîtres et esclaves, juifs et grecs mangeaient à la même table. On ne connaît pas d'autres exemples du genre dans l'Antiquité. Leur amitié était si forte que leurs autorités pouvaient venir de races, de cultures, de couleurs ou de classes sociales différentes. Leur bonne entente en Christ transcendait toutes les différences et toutes les barrières naturelles. Il n'existait rien de semblable nulle part ailleurs. Aujourd'hui, dans ce contexte de la pandémie du coronavirus, comment les malades sont-ils traités de par le monde? Certains sont-ils mieux traités que d'autres? Entre le riche et le pauvre, entre l'homme politique et le citoyen lambda, entre l'Africain, l'Américain, l'Européen, l'Australien, qui est mieux traité dans les structures sanitaires à travers le monde? La couleur de la peau a-t-elle joué un rôle dans le traitement des patients atteints de la maladie COVID-19, comme la rumeur semble le faire croire à travers le monde? Qu'est du serment d'Hippocrate s'il faut que les personnes créées à l'image de Dieu soient traitées selon la couleur de la peau, selon la race, selon le pays, selon l'ethnie, selon le village? L'ethnocentrisme est un poison mortel qui ne devrait pas avoir sa place dans nos comportements quotidiens. Le personnel soignant au front devrait considérer chaque patient comme créature unique de Dieu. Comment nous, serviteurs de Dieu, nous, bergers, nous traitons le troupeau de Dieu? Appliquons-nous la discrimination dans les soins pastoraux? Sommes-nous influencés par l'ethnocentrisme dans les services à rendre à la communauté chrétienne et à la société tout entière? Repentons-nous et revenons à l'Éternel des armées. Le vieil apôtre Paul, qui a fait son ministère parmi les Juifs, comme les non-Juifs, était préoccupé par toutes les ethnies et toutes les cultures. Il rapporta dans sa lettre à l'église de Galate l'hypocrisie de Pierre qui se trouvait dans une confusion ethnico-théologique. Il a fallu véritablement une autre expérience de conversion à Pierre à travers sa rencontre avec Corneille rapportée par Luc en Actes chapitre 10. Une seconde Pentecôte personnelle pour Pierre pour qu'il comprenne les choses et se débarrasse du chauvinisme culturel, de l'ethnocentrisme et du racisme. Serviteur de Dieu, berger du troupeau de Dieu à tout niveau, nous devons veiller sur nous-mêmes pour ne pas laisser le poison de l'ethnocentrisme s'enraciner, détruire notre ministère, détruire la relation avec les autres. Au troisième congrès du mouvement de Lausanne sur l'évangélisation du monde qui s'était tenu à Cape Town en Afrique du Sud en 2010, il ressort de l'engagement du Cape Town dans la section relative à la paix du Christ dans les conflits ethniques ce qui suit. La diversité ethnique est le don et le plan de Dieu dans la création. Elle a été salie et déformée par le péché et l'orgueil humain, produisant confusion, querelles, violence et guerre entre les nations. Cependant, la diversité ethnique sera préservée dans la nouvelle création, car des personnes de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues seront rassemblées parce qu'elles forment le peuple que Dieu a racheté. Nous confessons que souvent nous ne prenons pas l'identité ethnique au sérieux et ne savons pas l'apprécier comme la Bible le fait dans la création et la rédemption. Nous manquons de respect pour l'identité ethnique des autres et feignons de ne pas voir les profondes blessures qu'un tel manque de respect engendre à la longue. Ainsi, citer cette déclaration de l'engagement de Cape Town 2010. Auditrice, auditeur, travaillons aujourd'hui pour la paix et la prospérité tout en dénonçant les facteurs de l'ethnocentrisme. Arrêtons la violence et la destruction. Faisons comprendre que vivre avec notre différence est une richesse incommensurable donnée par le Créateur. C'est pourquoi il est important de tirer leçon des expériences bibliques en ce qui concerne les conséquences tribales. Dès lors, il faudra voir et vivre avec les différences comme une source de richesse, de justice et de productivité dans mes domaines. Il faut donner de la considération au vis-à-vis appartenant à une autre ethnie et vu comme image de Dieu. Il s'agira de restaurer, de reconstruire la relation de collaboration ethnique voulue par Jésus-Christ qui est lui-même le produit d'un message ethnique. Jésus-Christ est Seigneur sur toutes les ethnies. C'est cela la bonne nouvelle. Venons donc à lui aujourd'hui. Faisons allégeance à Jésus-Christ pour vivre des relations ethniques qui glorifient son nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous vous remercions pour votre écoute et à la prochaine, si Jésus-Christ ne revenait pas.
Viens traiter en moi le péché, viens me libérer des ténèbres.
Vous venez de suivre l'émission Citoyens du ciel et de la terre du pasteur Ghislain Afolabi Agbede. Pour tout renseignement, Fondation Adonai Iri House 01 BP 27 24 Cotonou Bénin. Numéro WhatsApp 00229 97 11 94 77. Email info@adonaiiri.org. info@adonaiireh.org.
Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi.